les enfants de Cronos.
Henri de Guise, jeune chef de guerre, a projet, son ambition est grande, d'épouser la sœur du roi, Marguerite de France. Mais l'éternelle reine-mère, Catherine de Médicis, s'y oppose et sa fille sera promise à Henri de Navarre, futur Henri IV. Elle l'épousera à Paris en août 1572 et leurs noces seront l'occasion du massacre des protestants lors de la nuit de la Saint-Barthélemy. Marguerite de France connaîtra la postérité sous son nom de Marguerite de Valois, mais surtout sous celui de reine Margot. Au XIXe, le roman d'Alexandre Dumas la rend vraiment célèbre. En revenant à l'ambition du duc de Guise, il faut parler du fait que Nanteuil devient le centre de toutes les conspirations et de ce qui deviendra par la suite la Ligue catholique. L'aura de Guise est grande, malgré ses 24 ans, et déplaît de plus en plus à son ancien compagnon d'armes, devenu roi, Henri III. Celui-ci hérite de la couronne suite au décès de son frère Charles IX en 1574. En effet, Guise est fortement soupçonné d'apporter son soutien à des ligues populaires catholiques qui se forment suite à la décision royale de se tourner vers des positions plus modérées envers les protestants. Guise continue de s'illustrer sur le champ de bataille, et notamment en l'emportant brillamment à Dormans. Pour auréoler un peu plus ce chef de guerre hors pair, une blessure au visage l'affuble pour le reste de ses jours d'une cicatrice qui lui vaut le surnom d'Henri le Balafré. Certains auteurs évoquent ce même surnom pour son père, François, mais cela ne fait pas l'unanimité. Il semblerait pourtant qu'en 1545, François de Guise ait reçu un coup de lance lors du siège de Boulogne, lui laissant une balafre caractéristique et le même surnom. Le roi Henri III est tiraillé entre modéré et intransigeant, et veut éviter l'affaiblissement de son autorité. En 1576, Henri de Guise prend la tête de la Ligue à Paris. Cette association s'érige en partie pour contrebalancer l'influence des modérés auprès du roi. Pour apaiser la situation, Henri III décide de prendre lui-même la tête de la Ligue. Parallèlement, il ordonne à Guise d'abandonner ses terres de Nanteuil, devenues selon lui le lieu de trop fréquentes réunions de catholiques. Le duc proteste, mais se tient à la décision royale. Refusant même de vendre ses terres, il aurait eu ces mots. « Sire, je ne vendrai pas, je n'échangerai pas ma terre, mais je vous la donne. » Henri III prend possession de celle-ci, mais les Guises y conservent une présence, puisque le cardinal Louis de Lorraine, frère d'Henri de Guise et neveu du précédent cardinal de Lorraine, est le prieur commendataire du prieuré de Nanteuil. Il réside alors toujours, de temps à autre, à quelques mètres du château, et ce alors que le roi a fait don de cette terre à un de ses fidèles soutiens, le maréchal Gaspard de Schoenberg. Le 23 et le 24 décembre 1588, les deux frères Guise sont assassinés. Leur nom et certaines de leurs actions ont marqué l'histoire de France, mais finalement, leur présence à Nanteuil, d'où ils prirent certaines décisions terribles, n'a étonnamment pas marqué l'histoire du Valois. En août 1589, Henri III est assassiné par le moine ligueur Jacques Clément. Avec lui s'éteint la dynastie des Valois qui régnait sur la France depuis 1328. La couronne revient à son cousin, Henri de Navarre, prince protestant de la branche des Bourbons. Il y a alors plus de 20 ans, depuis 1578, que la terre de Nanteuil a changé de main. La faveur royale a accordé à Gaspard de Schoenberg ce comté. Mais avant d'en dire plus sur lui et sur sa prestigieuse famille saxonne, attardons-nous sur le duché de Valois. Celui-ci est revenu en 1582 à la sœur de trois rois, fils d'Henri II et de Catherine de Médicis, Marguerite de France. Le duché lui est transmis en douaire par sa mère, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une terre lui appartenant en propre. Sa mère se l'était appropriée suite à la mort de François II en 1560. Auparavant, il appartenait au domaine royal, depuis l'accession au trône de François Ier, qui le tenait de son cousin devenu Louis XII. Cette terre est depuis des siècles dans l'orbite directe de la couronne et subit par sa proximité politique et géographique les affres et les tourments des affrontements de cette fin de XVIe siècle. Après le double assassinat du duc et du cardinal de Guise en 1588, le troisième frère, le duc de Mayenne, Charles de Lorraine, s'oppose à double titre à Henri de Navarre. Tout d'abord, celui-ci est le chef du parti huguenot, mais également il vient d'être officiellement reconnu comme son successeur par Henri III, toujours sans descendance. En 1588, le Valois n'est plus seulement le siège des conspirations, comme durant les premières guerres, il est désormais au cœur des affrontements entre ligueurs et protestants. Creil, Pont-Sainte-Maxence, puis Crépy tombent aux mains de la Ligue. La capitale du duché est restée fidèle au parti du roi, et les ligueurs se livrent au pillage dans la cité, pourtant conquise sans combat, puisqu'abandonnée par ses défenseurs avant l'arrivée des assaillants. Cette situation s'explique par le fait que les ligueurs lui reprochent de ne pas avoir compris que le roi trahissait la cause catholique en reconnaissant un protestant pour successeur potentiel. Devenu roi en 1589, Henri IV voit se durcir les positions catholiques à son encontre. Le nouveau roi est légitime, selon la loi salique, mais il ne l'est pas aux yeux des ligueurs tant qu'il n'a pas abjuré sa foi protestante. De plus, il n'est pas sacré, car Reims est justement aux mains des ligueurs. Cependant, il ne convainc pas une majorité. Le roi a ses partisans, et parmi ceux-ci, il peut compter localement sur le bailli du Valois, qui reprend le contrôle de Crépy au nom du roi. Aussitôt, la réaction catholique est organisée par le chevalier de Thoiry, qui assiège la cité et parvient par ses assauts à reprendre Crépy avec ses 600 hommes en une nuit. Après les victoires d'Arc en 1589, puis d'Ivry l'année suivante, Henri IV prend l'avantage et reprend de nombreuses villes, dont Crépy, qui tombe à nouveau dans l'escarcelle royale, mais il faut tout de même un siège de 5000 hommes cette fois-ci pour la faire tomber. En suivent de nombreuses scènes de pillage et de destruction. La guerre civile déchire toujours un royaume de plus en plus exsangue. Depuis près de 30 ans, les Français s'affrontent. La lassitude gagne les populations dont la plupart ne sait plus quels sont les enjeux de ces guerres incessantes et destructrices. Durant l'été 1592, le duc de Mayenne se tourne à nouveau vers le Valois après la prise de Senlis. Un nouveau siège s'annonce tandis que les dégâts des sièges précédents n'ont pas été effacés. Les défenses de la cité sont inopérantes et les Crépinois ont fui, se réfugiant dans les alentours pour échapper à la tuerie inévitable en cas de combat entre les assaillants et la garnison. Mais le gouverneur ayant lui aussi fui, le duc de Mayenne décide de la neutralité de Crépy, devenue indéfendable. Henri IV assure qu'il respectera cet état de fait par lettre de neutralité. Les remparts sont alors démantelés, puis semble-t-il assez rapidement remis en état par le parti du roi. Pour les habitants, le statut de neutralité les prive d'une certaine liberté de déplacement, puisqu'autour d'eux, la neutralité n'est pas de mise et le risque est grand de se faire arrêter, détrousser ou même trucider. Avec l'abjuration du roi, son renoncement à la religion protestante en 1593, puis son sacre à Chartres l'année suivante, la situation évolue grandement en sa faveur dans le royaume, mais Mayenne conserve son hostilité à celui qu'il considère toujours comme illégitime. Il faut attendre 1595 pour qu'Henri IV parvienne à le faire rentrer dans le rang, en lui accordant le gouvernement de la généralité de Soissons. Cette unité administrative n'existait pas. Elle est créée de toutes pièces à partir d'élections des généralités de Paris, Amiens ou Châlons. Pour le récompenser après sa soumission, il a créé cette généralité qui est la plus petite de France, et Crépy en fait partie. À compter de ce moment-là, la situation s'apaise dans le Valois et la vie reprend son cours, même si les impôts créés pour pallier les difficultés financières accablent les habitants. Ceux-ci ont pourtant souffert de ces années de guerre civile. En 1598, l'édit de Nantes marque la fin de 36 années de guerre de religion. La liberté de culte est accordée aux protestants, et l'année suivante, Henri IV et Marguerite de Valois, après de sévères négociations, s'accordent et divorcent. Ils avancent notamment auprès du pape, quitte à en rajouter un peu, à la fois la stérilité de leur couple, grand classique, la consanguinité, et les vices de forme du mariage. Les négociations à ce sujet remontent à 1593, mais n'aboutissent qu'une fois la paix revenue dans le royaume. Marguerite, ne voulant pas qu'Henri épouse sa maîtresse, Gabrielle d'Estrées, lui préférant une princesse de plus haute extraction, c'est la mort providentielle de cette maîtresse en 1599 qui apportera la solution. La nouvelle reine sera Marie de Médicis, et elle donnera au monarque 6 enfants en 9 ans. Mais entre les deux anciens époux, les relations ne sont pas orageuses. Ils s'entendent et Marguerite conserve son duché de Valois. Dans le Valois, justement, le comté de Nanteuil est précisément revenu 20 ans plus tôt à un fidèle du roi et de ses prédécesseurs. En 1578, Gaspard de Schoenberg se voit offrir ce comté par Henri III en réponse à sa fidélité 2 ans après l'avoir retiré à Henri de Guise. L'homme est d'origine saxonne et descend en droite ligne d'une prestigieuse famille de l'Empire. Au service des rois de France depuis 1561, il s'est distingué sur le champ de bataille face à ses anciens co-religionnaires, puisque protestants d'origine. Il opte alors pour la religion catholique et devient sujet du roi de France Charles IX, dont il est même chambellan. Cet honneur consiste à pouvoir accéder à la chambre du roi pour son service. Schoenberg devient Schomberg. Il francise son nom et devient ensuite ambassadeur auprès de l'Empire. Il échange avec le roi, dont il est proche, et lui confie notamment les raisons qui l'ont poussé à faire liquider Coligny et son entourage lors du massacre Saint-Barthélemy en 1572. Le règne d'Henri III est l'occasion pour lui de continuer sa carrière avec une nomination au Conseil du roi. C'est donc un de ses solides soutiens de la couronne qui devient comte de Nanteuil en lieu et place de l'intrigant et menaçant duc de Guise en 1578. Avec l'assassinat du roi en 1589, Schoenberg conserve sa fidélité à son successeur. Ce partisan d'Henri IV est menacé et parvient à fuir en Saxe tandis que ses fils sont arrêtés par les ligueurs. L'aîné, Henri, parvient à s'enfuir et le second, Hannibal, est finalement libéré par le duc de Mayenne. De retour en France, Schönberg se retrouve immédiatement avec la faveur royale qu'il avait quittée. Il rejoint le conseil des finances d'Henri IV. De l'union en 1572 de Gaspard de Schönberg avec une jeune veuve, Jeanne Chastaignier, naissent 5 enfants, dont Henri, futur maréchal de France, qui a échappé de peu aux ligueurs en 1589. Le prestige de Gaspard de Schönberg vaut au château de Nanteuil une nouvelle période d'embellissement. Sous les Guises, il ne semble pas qu'il y ait une modification majeure de l'aspect de l'édifice. Gaspard fait ajouter 2 ailes et aménager une galerie en façade pour relier ces 2 ailes. Il l'encadre ainsi, la cour d'honneur pavée. Après la mort de son mari en 1599, Jeanne Chastaignier fait également paver Nanteuil et édifie en 1616 un nouvel hôtel-dieu face à l'actuel cimetière. Il en reste aujourd'hui d'ailleurs des bâtiments en élévation et notamment la chapelle. Le précédent hôtel-dieu datant du XIIIe siècle a disparu dans un incendie au XVe siècle.